Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes le samedi 19 juillet, dans la chaleur de l'été. Et nous avons le plaisir, aujourd'hui sans Benoît Duchâtelet, qui est aujourd'hui dans l'avion, eh bien, d'animer un nouveau Libre Journal des Artisans. Alors, nous préparons les émissions de l'été et nous avons souhaité dévier, ou tout au moins faire quelque chose d'autre pendant l'été et nous orienter un petit peu vers la littérature. La littérature sont d'abord des artisans de l'écriture, ce qui correspond parfaitement au fil rouge de notre émission, qui est d'une part les artisans du geste, les artisans régionaux et les artisans de façon plus générale, dont les artisans d'écriture, qui ont une démarche de transmission, de d'exploitation du beau, du bien, du vrai, et qui ont aussi des choses à transmettre, des messages à faire passer. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Florimond Olive à l'occasion de son ouvrage Tempus Fugit, le premier tome d'une saga nommé Au nom du Père, ce premier tome aux éditions Héraclès. Vous pouvez intervenir sur cette émission par internet sur rc@rc.fr. On prendra avec tout le plaisir que nous avons de faire du direct toutes vos questions et avec Florimond, sans dévoiler totalement les arcanes du livre, eh bien je peux vous dire que Tempus Fugit est un roman d'espionnage politique qui mêle aussi de la finance, qui mêle du terrorisme et tout ça. Donc c'est le premier ouvrage, le premier tome. Le deuxième tome paraîtra le 29 octobre. Donc voilà. Florimond, bonsoir.
Bonsoir Benoît. Écoute, c'était parfait cette présentation, à part qu'on est le 18 juillet, pas le 19.
Ah oui, d'accord.
Le 19, c'est demain la finale de la Coupe du Monde. Mais bon, c'est erreur compréhensible, on ne sait plus où on en est dans ce monde. Et on va quand même faire cette émission.
Bah, absolument, d'autant plus que je me trompe sur le temps et Tempus Fugit, votre livre, votre polar politico-financier, politico... qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce qu'il y a tellement d'aspects...
Alors, il y a beaucoup d'aspects, c'est vrai, mais... Tempus Fugit, l'idée est simple, c'est qu'est-ce qui se passe? Qui commande l'État? Qui dirige le pays quand tout brûle à 3 heures du matin? En partant de cette question, j'ai fait un kaléidoscope de tout ce qui pourrait arriver, enfin de tout un tas d'événements qui pourraient arriver, et je les raconte sur 26 heures.
C'est ça.
Voilà, 26 heures, minute par minute, en se ramenant à chaque fin de chapitre, sur un dossier classifié de 2006 qui donne des indices et explique les circonstances dans lesquelles un homme, Paul Mondelin, est mort. Et le livre, c'est à la fois une aventure, parce que c'est l'idée, mais c'est également un livre sur la filiation, sur ce qu'on transmet à sa famille, à ses proches. C'est aussi un livre sur les coulisses du pouvoir.
Oui.
C'est romanesque dans le sens où les histoires, les faits n'ont pas existé, mais c'est réel dans le sens où les mécaniques, le geste, reste. Le geste est celui qui est raconté. Voilà.
Et le geste est plausible.
Ben, le geste est... Moi, je l'ai voulu très crédible, je l'ai voulu très visuel. Visiblement, il est crédible, puisque j'ai la chance d'être, et même l'honneur d'être sélectionné pour le prix de l'Académie du renseignement, donc être comme ça reconnu par des gens dont c'est le métier, qui reconnaissent et qui connaissent parfaitement les arcanes et le fonctionnement même des procédures. Donc c'est un plaisir. Visuel, j'ai aussi eu la chance de voir les droits audiovisuels être vendus au printemps. Donc on va dire que la mission est réussie. Et puis littérairement, on a le tome 2 qui est annoncé, effectivement, comme tu le disais, le 29 octobre.
D'accord. Donc on s'inscrit dans une saga où chacun, comment dire, c'est un livre qui est, on en a beaucoup parlé, dont l'acteur principal est le temps.
Tout à fait.
Et le temps fuit.
Le temps fuit. Alors, Tempus Fugit, il y a certes la référence à Virgile.
Tout à fait.
Mais c'est également, pour le coup, une devise familiale dans le livre, la devise familiale de la dynastie Mondelin.
Oui.
C'est aussi le nom de code du père décédé. Et c'est un rythme. Le temps est, comme tu le disais, effectivement, l'acteur principal du livre. Et ce qui était important, pour moi, c'était de laisser le temps passer pour que les gens qui peuvent le lire se comprennent plus exactement à quel point il est difficile de prendre les décisions dans l'urgence.
Oui.
Donc c'est la pression en permanence. C'est, il se passe un événement, il faut réagir. Il faut réagir médiatiquement, il faut réagir politiquement, il faut agir pour les services de renseignement, pour savoir. Donc ça commence avec un attentat et on se dit très vite, et si l'attentat n'était pas le but ultime et que c'était plus quelque chose pour détourner l'attention et derrière qu'il y ait encore d'autres événements et on cherche en permanence qu'est-ce qui est recherché et comment les autorités vont gérer.
Ouais, alors on va déflorer quelques premières pages. En gros, une scène entre un mari et une maîtresse se déroule à Villa Montmorency.
Alors oui, c'est effectivement le début, c'est le prologue. Alors c'est un jeu que je fais avec le lecteur où j'ouvre sur la fin des événements.
Oui.
Et on découvre, effectivement, on rentre dans une maison de la Villa Montmorency, et là, il y a une chaîne de télé qui tourne en boucle, une chaîne d'infos en continu, et qui, voilà, débat comme toutes les chaînes d'information en continu, on discute de l'actualité, de ce qui vient de se passer, il y a eu des attentats, il y a eu des machins, tout le monde attend ce qui va se passer, et là, d'un coup d'un seul, le coup prétombe, un mort à l'Élysée.
Oui.
Et là, on revient en arrière et on commence 26 heures plus tôt comment les événements se sont passés.
C'est ça, et on le voit, il y a un premier fait générateur qui est l'attentat. Donc un attentat dans un palais de la République.
Alors c'est avec pas un palais de la République,
non,
c'est l'INRAE.
Non, c'est le siège, d'une institution publique où il se déroule des choses, comment dire,
curieuses.
Des choses qui sont curieuses, oui, comment dire, ça rejoint un peu l'actualité sur la question du dépistage de collaborateurs parlementaires et ministériels sur la drogue.
oui, alors chacun le lit comme il veut, mais
et donc il y a une explosion pendant une gigantesque partouze, en gros, si on peut être oui. Un peu direct.
Oui, alors, on fait attention 2 secondes. Alors, je crois que mes enfants écoutent pour une fois.
Ah oui, donc, d'accord, donc oui.
Voilà. La vraie question qui se met derrière ce que tu dis, c'est le côté cru.
Oui.
On m'en a beaucoup parlé, on me l'a reproché parfois. Mais comme je dis toujours, la vie est crue, la politique est crue.
Ouais. C'est son filtre.
Donc, pourquoi aller tourner sur des trucs, autant parler de ce que certains se disent, attention, c'est des pervers, c'est des machins. Eh ben tiens, on va en prendre un, on va laisser sous-entendre que... Et puis boum, il y a un attentat. Mais du coup, ça amène une double question. Est-ce que c'était pour détruire le lieu? Est-ce que c'était pour atteindre les gens qui étaient là ce soir-là?
Oui.
Donc c'est une première phase de question.
C'est ça. Et qui aboutit en fait... comment dire,
une revendication un peu originale.
Oui, 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 mais avant, en fait, à une procédure, toute une procédure d'alerte de permanence avec la ministre de l'Intérieur, la Mondelin.
On rentre dans le détail.
Directement dans le détail.
De ce qui se passe. Voilà, alors, en gros, si vous avez envie de vous savoir comment ça se passe quand il y a un événement comme ça, bah, je vous le raconte dans le livre, alors voilà, on prévient les différentes personnes qui ont leur vie de tous les jours. Oui. À ce moment-là, il est presque minuit, bah, ils sont à un café, c'est le 12 juillet, on est, voilà, on essaye de prendre du bon temps, on rigole, et puis bah, le coup près tombe, la permanence appelle tous les gens du ministère, parce que en réalité, c'est un fait... on peut avoir une vie quand on est en cabinet ministériel, mais dans les faits, les gens qu'on voit le plus, c'est les gens du boulot. Donc c'est souvent avec eux qu'on est et qu'on passe du temps. Et on est en train de se détendre, et boum, bah, il faut retourner au bureau. Et il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et là, il y a effectivement toute la phase d'enquête et la phase de présence publique qui s'impose, parce que le monde n'attend pas, parce que le temps fuit, parce que chaque événement peut avoir des conséquences. Et donc, là, j'essaye de traiter les conséquences immédiates, de montrer comment ça se passe. Mais chaque décision, chaque acte aura derrière des conséquences.
Oui. Mais la ministre d'Intérieur, à ce moment-là, se trouve dans un événement public. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite, au 11 septembre 2001, lorsque George Bush faisait une lecture dans une classe, et un de ses conseillers lui souffle à l'oreille qu'il y a des détournements d'avions, et qu'il y a une cellule de crise qui va se mettre en place.
Oui, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bush acquiesce et recommence sa lecture, et il attend d'avoir fini pour partir.
Oui.
Pourquoi? Pour ne pas créer de la panique.
Tout à fait.
Et c'est très très amusant que tu fasses un parallèle avec cet événement-là. Je regardais un de mes modèles en termes de série télé, qui est 24 heures chrono.
Et oui,
sur
on
lequel,
en parler,
pour le rythme, on en parlait tout à l'heure, le rythme est ça. Et où tu as, dans la saison 2, le président est alerté d'un risque d'explosion d'une bombe nucléaire sur le sol américain.
Mmh.
Et là, il ne faut pas créer la panique.
Oui.
Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je regardais l'épisode en question tout à l'heure. mais c'est ça. En fait, vous avez la façon dont on fabrique le réel et l'histoire qu'on vous transmet. Et quand vous êtes effectivement au pouvoir et qu'on vient vous annoncer un événement comme ça, bah vous pouvez pas vous effondrer. Vous pouvez pas dire oh, merde devant. Pardon.
Flûte.
Vous pouvez pas dire ça.
Oh, c'est pas anglais.
Oui, c'est pas anglais et j'ai pas vu la tirelire pour mettre les pièces.
Droite.
Ah oui, effectivement. On peut pas se dire ça. On se dit je dois garder ma contenance. Je poursuis mon événement qui va bientôt finir, je vais même essayer de l'abréger, mais sans que ça se voit, et je repars bosser, je repars être là où mon rôle principal m'attend. Même si la représentation fait partie de mon rôle, il faut que je retourne là où je suis attendu pour prendre les décisions. Parce que le métier de politique, c'est l'arbitrage, en réalité.
Oui.
On t'amène des solutions, on t'amène des informations, et toi, tu dois arbitrer.
Mmh.
Un vrai politique, c'est ça ce qu'il fait. Il arbitre.
Au niveau des informations qu'on a et selon la qualité des informations qu'on a.
Et tu dis très bien, la qualité. Et qu'en est-il quand la qualité des informations n'est pas là?
Alors,
ça en fait partie.
Il y a une scène très marrante parce que ça a dû ça a dû exister, où un sous-directeur de la Direction Générale du Renseignement se fait muter à Wallis et Futuna à l'occasion d'une...
Il se comporte un peu mal et il se fait remettre en place et on lui
par
explique...
Par une conseillère ministérielle.
Par la directrice de cabinet.
La directrice de cabinet.
Oui, voilà, elle l'envoie...
Qui, elle, n'est pas fonctionnaire, est agent de l'État, mais pas fonctionnaire.
Contractuel, mais nommé. Et quand on est directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, eh ben,
on est la voix.
On est la voix du ministre et on se comporte pas n'importe comment quand on parle à une personne de ce niveau-là.
Voilà.
Voilà, c'est tout.
C'était la petite incise un peu marrante.
Oui, j'ai essayé de temps en temps de faire un peu sourire ou de ramener un peu de légèreté, parce que c'est vrai qu'on a une tension qui est permanente. J'ai des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit « mais en fait, on lit, mais on est à bout de souffle ». En permanence, et on se dit ça va, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, il faut qu'ils reprennent la main, il faut que... Et non, toujours, c'est la vie dans les institutions de l'État, c'est la façon dont l'État fonctionne, parce qu'il y a l'immédiateté, parce qu'il faut agir tout de suite. Et il y a quelques années, l'époque où on n'avait pas les réseaux sociaux, où on n'avait pas les chaînes d'information en continu, on avait un petit peu plus de temps pour une partie.
Oui.
Parce que la décision, quand il faut la prendre, il faut la prendre. Ça n'a pas changé. Le délai de réaction, le délai de réflexion sur la prise de parole publique, avec les réseaux sociaux et avec les chaînes d'info en continu, a été réduit à peau de chagrin.
Oui.
Et ça m'intéressait quand je dis que, oui, c'est du romanesque ce que j'écris. Et pourtant, chacun des événements qui arrivent pourrait arriver.
Oui.
Ça serait vraiment pas de chance que tout arrive d'affilée comme c'est dans le livre. Mais enfin, c'est un livre, c'est un roman, c'est l'imaginaire.
Oui, bah disons que dans les romans d'espionnage, c'est que on a un empilement de strates, de situations qui, prises individuellement, peuvent exister, mais qui, pour le livre... Pour le rythme du livre, pour l'intrigue, s'empile.
Mais c'est aussi la vraie vie, parce que si un événement se passe, il y a une cause, il y a une conséquence.
Oui.
Ce que les Américains ont été les premiers à redouter, notamment, tu parlais du 11 septembre 2001, et c'était quelque chose qui existait déjà comme préoccupation, c'était le risque de surattentat. Mmh. Et quand tu regardes bien, le 11 septembre 2001, t'as un premier avion,
oui.
T'as un deuxième avion,
oui.
T'as un troisième avion qui finira dans un champ,
c'est
mais malheureusement, tout le monde y passera, t'as le Pentagone qui est touché... C'est le principe du surattentat. Alors, oui. Eux, ce qu'ils avaient plus comme peur, c'était une explosion, les services arrivent sur place, et une fois qu'ils sont sur place, boum,
un deuxième attentat.
Pour toucher tous les services qui sont... tous les services d'urgence, d'enquête, etc. Là, la réflexion, c'est plus de se dire, eh ben, il y a ça, et si ça, en fait, c'était pour distraire l'attention, et qu'il y avait ça derrière... Et que derrière, il y avait ça aussi, mais à la fois, c'est une diversion, à la fois, ça a un but d'éliminer un tel ou un tel. Et puis, il y a aussi ça. Et en fait, c'est un principe de domino.
Oui.
Voilà. Il y a des gens qui veulent. Et puis, la question, c'est pourquoi tout ça? Et pourquoi ce jour-là? Et on est à 2 jours de la fête nationale.
Oui, quand, on est 12
quand
juillet,
le livre commence.
Donc.
Et est-ce que tout ça n'est pas lié à cette fameuse dynastie Mondelin et donc à l'assassinat et la disparition de Paul Mondelin 15 ans avant. Voilà.
Ouais. C'est parce qu'il y a des retours sur des arrêts sur images, des retours sur
c'est ce que je
la mise
tout
en contexte.
Les fins de chapitre où, au fur et à mesure, différentes sources classifiées donnent des
oui,
informations
Mossad,
sur la mort de Paul Mondelin.
Mm.
Voilà, et ça, c'est tout du long pour justement que le lecteur découvre toute l'histoire au fur et à mesure qu'on lui raconte l'histoire.
Oui, parce qu'on est au cœur du pouvoir. On a un candidat putatif à la présidence de la République qui disparaît. On a son épouse qui fait l'union de la droite et du centre.
Alors, son épouse qui, à ce moment-là, est la patronne du grand parti politique.
Oui.
Et qui a dit qu'elle ne se présenterait pas, mais elle a dit ça parce que son mari allait se présenter.
Oui.
Et ça, voilà, c'est des choses qu'on peut comprendre. Et puis derrière, il y a le jeu de tous les autres candidats.
Il y a le jeu de tous les autres
veulent
candidats.
Se présenter. Et puis la sortie, il y a une fuite qui dit que le candidat va se présenter. Et donc, tous ceux qui n'osent pas aller l'affronter se précipitent sur les plateaux pour dire « Ah mais oui, il est fantastique, c'est mon meilleur ami,
oui.
Et je ne me présente pas contre lui. » Donc ça, c'est ce qui se passe en 2006, avant la disparition de Paul Mondelin. Puis d'un coup, il disparaît.
Et un vide.
Et tous ceux qui avaient dit bah, « Je ne me présenterai pas, j'ai pas la capacité,
la situation change, quatre sont rebattus. »
Et voilà, et il y a quelqu'un qui peut profiter.
C'est ça. Et on parle de dynastie, on parle aussi d'enfants, de brus. Il y a tout un environnement. En fait, quand on a commencé, alors je rappelle qu'on est sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir Florimond Olive pour son livre, son roman d'espionnage politique, Tempus Fugit, dont le tome 1 aux éditions Héraclès est paru. Le tome 2 est à parution le 29 octobre. C'est une saga. Tout a été pensé. Tu as pensé tout comme une saga à plusieurs tomes, façon Game of Thrones, façon
Merci
série à plus de 8 saisons, quoi.
Mais oui, en fait, quand je l'ai imaginé, je l'ai imaginé comme un univers.
C'est ça.
Mais un univers qui se passerait dans notre univers.
Oui.
Avec les mêmes règles que celles que nous avons. Juste des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on pourrait connaître, qui vivent là-dedans. Et forcément, quand tu réfléchis en termes d'univers, tu réfléchis aux ramifications, les amis des uns, la famille des autres... les relations amicales,
la profondeur
psychologique, les ambitions, les événements qui se passent tout autour. Et forcément, bah, quand tu fais ce travail-là, pour que ça soit crédible, eh ben, tu crées la vie de chacun de tes personnages.
Leur évolution psychologique.
Évolution psychologique, évolution physique, évolution... d'action,
ouais.
J'ai envie de dire, parce que ton univers, il commence à être raconté aujourd'hui, mais il y a eu un passé, il y a un avenir, il y a tous les personnages qui vont vivre chacun leur vie et chacun va faire des choix, va être confronté aux conséquences de ses choix, et... Un peu comme je pourrais te comparer, alors c'est pas pour vanter, mais c'est pour décrire l'univers, un peu à la Star Wars,
oui.
Où on a effectivement tout cet univers avec tous ces personnages, enfants, parents, etc., qui vivent tous ensemble et on peut raconter plein d'histoires autour. Et ce qui me semblait aussi intéressant, parce qu'aujourd'hui, je suis là qui est paru, donc il faut raconter la suite. Mais je peux aussi raconter ce qui s'est passé avant, parce que ça a aussi des influences. Et de la même façon, c'est ce qui rend le jeu avec le lecteur... ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur lit le tome 1, puis il lit le tome 2,
oui.
Et là, il découvre qu'il y avait des indices dans le tome 1 sur ce qui allait se passer dans le tome 2, sur les relations entre les uns, les autres, et machin, et sur le passé, et donc... Il peut relire le tome 1, il ne va pas le lire de la même façon. Et après avoir relu le tome 1 d'une façon différente, il peut relire le tome 2, et puis il peut passer au tome 3, etc. Et en fait, tout est imbriqué. J'ai une règle qui est, je ne mens pas au lecteur, jamais. Je ne vais pas lui dire, c'est machin, et c'est un méchant, et
oui. Et puis finalement, en fait, c'est pas lui.
Et, non, si le lecteur est attentif, s'il est extrêmement attentif, il peut arriver à tout trouver d'un coup. Et s'il y en a qui trouvent, je veux bien qu'ils me contactent.
Sur rc@crc.fr.
Voilà, par exemple. Et puis, il y a chaque livre qui peut être lu indépendamment. C'était important pour moi. Alors, les deux premiers, c'est un peu particulier parce que le tome 2, c'est les conséquences immédiates du tome 1. Et le tome 2 commence à la minute où le tome 1 s'arrête. C'est un peu particulier, mais pour moi c'était important que les conséquences du tome 1 tombent le 14 juillet.
Ouais.
Donc voilà, parce qu'il y a un jeu, pour les gens qui n'ont pas encore vu le livre et la couverture, c'est une couverture mate en noir et blanc qui montre un palais de la République. Et la seule couleur
sur YouTube pour les
c'est le drapeau bleu, blanc, rouge.
Suivent.
Voilà. Parce que c'est autour de tout ça que ça parle, c'est la dynastie, mais c'est la fabrique du pouvoir, c'est comment on vous raconte les faits, comment vous pouvez juger sans connaître la réalité de ce qui se passe derrière l'écran, parce que les médias vont vous raconter qu'une partie des événements.
Oui.
On n'a pas le temps d'explorer l'intégralité des conséquences, des causes de chaque élément qui est venu s'additionner pour amener. Par contre, on peut analyser comment les gens réagissent. La mécanique est réelle, l'histoire est un roman.
On va partir sur les inspirations. L'inspiration est clairement autour du rythme. De l'exécution, on est donc 24 heures chrono,
oui,
pour ceux qui connaissent, qui a été une série au courant des années 2000, qui se déroulait soi-disant en temps réel, sur une crise terroriste. Il y a eu plusieurs saisons.
Il y a eu 9 saisons, et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est diffusé en replay sur
rediffusion,
sur M6. Et apparemment, c'est en top tendance des séries, donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. Mais c'est un rythme, parce que vous n'allez pas suivre un personnage unique pendant 24 heures. Pour moi, c'est 26 heures, parce que le personnage, il va monter dans une voiture, et que s'il vous dit qu'il démarre, qu'il va rouler pendant 20 minutes, tourner la clim, allumer la radio, l'éteindre, mettre les essuie-glaces, un clignotant, ça va vite pas être très intéressant. Donc, on fait une ellipse et on passe à un autre personnage, une autre histoire en parallèle.
Pendant ce temps-là,
parce que le côté minuté, temps réel, et le cœur du livre, le cœur du système, et de dire à quel point on peut se faire broyer en 26 heures.
Oui, parce que tout est dans tout. Tout est dans
c'est
tout.
Ça.
C'est ça. Les événements, la prise de décision politique, on en parlera, les chaînes d'information en continu, qui, entre guillemets, ont fait beaucoup de mal.
Jouent
un rôle.
D'informer,
qu'on peut contester un peu.
Oui, ou la façon dont ils le jouent.
Et puis, les acteurs annexes des décideurs politiques, donc peut-être les méchants, les subalternes, tout l'environnement de ceux qui gravitent et ceux qui sont touchés par l'événement.
Oui, ou qui veulent en tirer un intérêt. Ce qui est fantastique quand on écrit, c'est qu'on peut mettre de soi et des autres dans tous les personnages. Donc, tu as des personnages que tu vas détester à un moment donné, et puis tu vas t'apercevoir que finalement, ils sont pas si mal que ça. Tu en as d'autres que tu vas aimer et détester.
Ouais.
Ça, pour quelqu'un qui écrit, c'est un plaisir absolu de pouvoir faire évoluer un personnage qu'on aime détester.
Les grands vilains, quoi.
Les grands vilains, mais ceux qui ont une aura, et ceux où tu te dis, mais je ne peux pas le faire disparaître. Je ne peux pas. Peut-être que si, il va falloir le faire disparaître, ou peut-être qu'il va falloir qu'il lui arrive quelque chose. Et puis, il y a les personnages où tu te méfies au départ, tu te dis, c'est pas très clair. Et ce qui, dans le milieu de l'espionnage, est souvent le cas.
C'est ça.
Et ces personnages-là, et tu suis, et tu te dis, mais comment on peut survivre psychologiquement à ça? Comment, quand on traverse tout ça en si peu de temps, on peut arriver à revivre dans le monde réel? C'est un parallèle avec la politique, dans le sens où, quand tu vis pendant des années dans la politique, cette intensité fait que le jour où tu t'arrêtes, c'est dur de reprendre pied.
Ouais.
Parce que il faut retrouver quelque chose qui te donne cette envie, ce désir de faire quelque chose d'utile. Et ça, c'est dur. Voilà.
Alors, pour les auditeurs, donc je reçois Florimond Olive pour Tempus Fugit. Effectivement, tu as aussi une légitimité incontestable à ce niveau-là, parce que tu as été entre guillemets au cœur du cyclone, tu as été collaborateur parlementaire, ministériel.
Oui. Non, mais j'ai effectivement eu l'honneur, parce que voilà, c'est un honneur, mais sans même parfois l'avoir demandé. D'ailleurs, un honneur ne se demande pas, mais j'ai vécu de l'intérieur les mécaniques du pouvoir. J'ai vécu des crises aussi, j'ai vécu les mécaniques, j'ai vécu les jeux avec les journalistes, parce qu'il n'y a pas d'autre terme que le terme oui. jeu. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des événements incroyables en termes de souvenirs et en termes de rencontres dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette volonté d'écrire le réel. Parce que écrire le réel, si j'avais juste voulu raconter des anecdotes, j'aurais fait des mémoires, ça se vend bien, c'est très facile. Mais si on veut être proche de ce qui se fait, je trouve que le roman et la fiction donnent une liberté sans accuser personne, sans parler de un tel ou un tel, juste en créant quelque chose, un univers, et de faire les parallèles, et de montrer la façon de se comporter, l'urgence, le besoin absolu de réagir quand une information est publiée, et que soit on peut en douter, soit on la sait fausse, soit voilà, ce comportement, les jeux de pouvoir, les guerres internes au sein des partis politiques, au sein du pouvoir exécutif.
Des équipes, des écuries.
Voilà. Donc, j'ai aimé pouvoir mettre un peu de ça, dénoncer des choses, des comportements. Encore une fois, c'est plus sur des mécaniques que...
C'est une projection. Une projection d'expérience sur des situations...
Parce que c'est beaucoup de parallèles, mais voilà, c'est le geste est exact, la mécanique est exacte.
Ouais.
Voilà, je tiens à rassurer les auditeurs, tout ce qui se passe dans le livre ne s'est jamais passé de façon enchaînée comme ça.
Oui.
Ça reste un roman. Voilà, c'est une fiction et c'est un... Voilà, ça permet de savoir qui est aux commandes et comment les commandants réagissent, je vous dis, quand le pays brûle à 3h du matin.
C'est une projection de connaissances. Ta base de connaissances, justement, c'est à partir de l'expérience, mais il y a aussi... Il y a aussi un travail un petit peu d'investigation. L'écriture. Voilà. On va parler sur l'écriture, la fabrique de l'écriture, la fabrique du roman.
Alors, il est vrai que pour moi qui ai fait ce premier ouvrage, c'est le premier roman sur lequel j'écris, et d'ailleurs, j'ai jamais participé à l'écriture d'un roman, des livres autres, oui, mais pas un roman. j'avais ma déformation qui voulait être dans l'exactitude. Donc je ne voulais pas me tromper. Donc j'ai écrit avec un stylo dans une main, enfin mon ordinateur d'un côté, un chronomètre de l'autre, pour les temps de réaction, les temps de déplacement. Il m'arrivait de me jouer la scène
d'accord.
en la chronométrant. Pour être dans l'exactitude. C'est aussi pour ça que certains lieux que je décris, c'est des lieux que j'ai vus, qui existent réellement.
Oui.
Pas forcément là où ils sont indiqués, mais parce que je fais des parallèles. Mais des lieux qui existent, des salles de crise qui existent, des anecdotes qui existent, parce que je considérais être plus près de la réalité à raconter et pour faire comprendre comment ça se passait.
Oui.
Donc voilà, alors je disais ça par rapport aux adresses parce que je raconte souvent cette anecdote. J'ai une dame qui un jour me contacte et qui me dit donc j'ai lu votre livre, j'ai été voir sur Google Earth, effectivement, l'immeuble dont vous parlez, vous avez raison, il n'a pas d'entrée derrière, mais l'immeuble d'à côté, il en a une, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai prévu, on va monter avec mon mari à Paris et on va faire le tour de tous les endroits que vous avez indiqués dans le livre. Donc ça m'a fait sourire.
Ouais, c'est touchant.
C'est touchant dans le sens où cette dame me disait, j'ai adoré.
Ouais.
Je m'y suis plongé, je suis rentré dans votre univers. Donc, voilà, ça me touche. Voilà.
Oui. C'est en fait, de façon générale, c'est une pelote de laine. C'est une pelote de laine qu'on déroule tant au niveau de l'intrigue.
Oui, et puis parfois on tombe sur des nœuds.
Voilà.
Et donc, il faut s'arrêter, défaire le nœud. Ou alors, on coupe le nœud.
Ouais.
Il y a deux solutions.
Ou on desserre légèrement. Parce que...
Oui, mais même si tu défais légèrement, il faut le défaire le nœud complètement, si tu veux réenrouler de l'autre côté. Ou t'en servir pour faire un pull. Voilà, moi, le retour qu'on m'a fait sur l'exactitude, sur tout ça, alors on va être honnête, il y a beaucoup de gens qui me disent aussi... C'est compliqué, il y a beaucoup de gens dans votre livre, il y a beaucoup de personnages. Oui, moins que si vous regardez une série télé, moins que dans la vraie vie.
Oui.
Beaucoup moins. Le lecteur, en fait, va appréhender le livre différemment en fonction de ce qu'il recherche. Il y a le lecteur d'aventure qui va à peine s'occuper des noms des personnages et qui va lire pour lire une aventure.
Oui.
Il y a le lecteur politique qui va avoir envie de lire et de voir les petits coups, qui va essayer de dire « Ah ben voilà comment ça se passe, voilà les mécaniques ». Il y a le lecteur de drames familiaux qui va lire pour lire l'histoire de la dynastie Mondelin. Donc il y a plusieurs façons de le lire.
Mais qui va se retrouver quand même embarqué dans une histoire d'espionnage.
Oui, et puis il y a un autre type de lectorat qui me fait toujours beaucoup sourire, parce que quelqu'un de très connu qui lit mon livre et qui m'appelle et qui me dit « J'ai lu ton livre. Alors, je suis sûr qu'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et puis je suis sûr que telle personne... tel personnage, c'est telle personne dans la vraie vie. Tel personnage, c'est telle personne dans la vraie vie. Non. Non. C'est, en fait, je vous le dis, ce n'est pas ça. C'est pas un roman à clé pour savoir quel personnage est qui. Non, c'est pas du tout ça. Pour certains personnages, j'ai pu m'inspirer physiquement de quelqu'un, intellectuellement de quelqu'un d'autre, en termes d'ambition d'encore un autre.
Oui.
Mais non, j'ai pas été croqué un président, un secrétaire général, un ministre de l'Intérieur, un patron d'entreprise. Non, c'est un roman.
Oui.
C'est un roman. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des personnages un peu riches, un peu crédibles physiquement. Donc, je me suis inspiré principalement de gens que je connaissais en termes d'acteurs, de qui j'aurais bien vu jouer le rôle à l'origine.
D'accord.
Pour pour que le personnage corresponde physiquement. Ouais. Voilà, donc c'était plus ça. Donc, oui, il n'y a pas à aller chercher plus loin.
Oui, c'est ça. C'est,
si
c'est,
vous
c'est,
avez.
C'est rasoir d'Occam.
Voilà, c'est ça.
C'est la solution la plus simple
qui est souvent la meilleure. Donc, quand vous lisez, si vous imaginez un acteur précis, il est possible que c'est parce que c'est lui que j'ai imaginé quand je l'ai écrit.
Le rôle du politique, je devrais aborder le rôle du politique et de l'entourage. Est fondamental et dans le cœur du
c'est
dans le cœur du de l'intrigue
ça fait partie du cœur de l'intrigue puisque on est autour d'une dynastie et une dynastie c'est qu'il y a des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, donc forcément il y a la famille. La famille parle, la famille travaille comme un médecin travaillerait avec son fils, comme un journaliste travaille avec son fils, comme un mécanicien travaille avec son fils. Alors je dis son fils, ce n'est pas une question de sexisme ou autre, c'est par simplification, qu'on soit d'accord, parce que tu l'as vu, on en a parlé, les femmes ont un rôle extrêmement important et présent.
Oui.
Dans le livre, puisque les personnages principaux sont des femmes, et que les femmes sont toutes des femmes de pouvoir.
Oui, c'est ça. Oui, il y a une ministre d'intérieur, il y a une directrice de cabinet, il y a une première ministre, un premier ministre d'un pays étranger.
Une première ministre d'un pays étranger,
oui. Une première ministre, directeur de la communication, procureur. Chacun avec sa logique, sa personnalité,
sa ligne et
son couloir de nage.
Et tout à fait, sa propre histoire, parce que c'est la vraie vie, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne tous.
Voilà.
Chacun a son objectif, chacun a sa vraie vie. Mais effectivement, j'ai mis des femmes de pouvoir, probablement parce que, l'époque est à ça, et puis deux, moi j'ai toujours vécu ça autour de moi. Les femmes autour de moi ont toujours été très puissantes, que ce soit dans la famille ou à l'extérieur.
Voilà. On va passer un rapide bobino pour la radio.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Donc nous reprenons notre émission dans la joie et la bonne humeur avec Florimond Olive à l'occasion de l'ouvrage, de son premier ouvrage d'une saga, Tempus Fugit, sous-titré tome 1 au nom du père, que vous pouvez retrouver aux éditions Héraclès. Je vais pas faire l'insulte à nos lecteurs cultivés de faire l'énonciation du nom Héraclès, donc c'est comme le dieu. Voilà, et le tome 2 est annoncé pour le 29 octobre, donc la suite d'une saga. On parlait juste à l'instant du rôle des femmes, plus généralement du rôle de l'entourage, qui est central dans la prise de décision, dans le rôle individuel que chacun a, et dans la personnalité. Je pense particulièrement à un personnage qui finalement en fait se révèle pas du tout celui qu'on pensait.
Oui, mais en fait c'est le parallèle que je faisais tout à l'heure sur la vraie vie, parce que d'une part, l'entourage, dans la vraie vie, qui mieux que ton entourage le plus proche peut venir te dire quand tu fais quelque chose de pas bien ? Qui peut venir te dire t'as dépassé les bornes ? Quelqu'un avec qui tu bosses ? Quelqu'un en qui t'as confiance.
Oui. Bah,
c'est plutôt un proche, c'est plutôt l'entourage immédiat, souvent la famille qui vient te tempérer, te dire attention, c'est pas très bon. Après, tu connais pas forcément tous les aspects de toutes les personnes qui te sont très proches. Tu peux les, tu peux croire qu'ils sont, qu'ils réagissent de telle ou telle façon, et parfois tu peux être surpris de leur réaction parce que on est devant une situation exceptionnelle.
Oui.
Et donc, ils réagissent de façon exceptionnelle. Voilà. Après, voilà, le principe dans une dynastie, ou je devrais même dire dans un clan, c'est on lave son linge sale en famille.
Oui.
Sauf que qu'est-ce qui se passe si on commence à laver son linge sale en public?
Oui.
Et c'est un peu... C'est un peu ce qui pourrait arriver,
ce qui est
sous-entendu.
Oui, oui, et puis puisqu'on voit dans l'actualité aussi, je pense à des directeurs de campagne qui désavouent leur candidat trois jours avant des élections. Des élections nationales, il y a l'entourage effectivement familial, mais il y a aussi l'entourage, la courtisanerie.
Alors, oui, je vois très bien où tu veux en venir. Je pense que ce que tous les auditeurs m'accorderont, c'est que quand on a son vrai entourage proche, sa femme, ses enfants, neveux, nièces, frères, sœurs, et que on travaille avec eux, ça se passe bien, on leur fait confiance, parce qu'on décide de leur faire confiance. Et de l'autre côté, celui qui travaille avec doit fournir deux fois plus de boulot.
Oui.
Donc ça, c'est une réalité.
Il y a une légitimité à
avoir. Il y a, bien sûr, eu dans l'actualité des emplois fictifs, des machins. C'est extrêmement minoritaire, et même on pourrait revenir sur la réalité d'un emploi fictif familial. Parfois, on a accusé et on n'a pas dit que c'était faux, mais bon. L'autre partie du problème, c'est qu'on est parti du principe qu'en politique, eh ben, il ne fallait pas que ça existe. J'ai même entendu des gens dire « Oh, mais attends, telle personne, s'il veut faire travailler sa femme, eh ben, il a qu'à la prendre bénévolement. » Mais pourquoi ? Elle a une compétence extrême, elle choisit d'aller avec lui, pourquoi elle devrait renoncer au salaire qu'elle a pour venir bénévolement ? Enfin, non, elle va pas renoncer à sa carrière. Ou c'est pareil pour un enfant, c'est pareil pour un mari.
Oui.
À un moment, il faut aussi être franc, se dire, il y a des journalistes, il y a des dynasties de journalistes qui sont parfois dans le même média,
oui.
Et on ne leur dit jamais rien. À partir du moment où ils font leur travail, je vois pas ce qu'on a à le dire. Ce qu'il faut encadrer, c'est vérifier que le travail est fait. C'est pas l'interdire. Est-ce qu'on interdit, ce que je te disais, un avocat, un médecin, un mécanicien, de travailler ensemble,
oui.
Un boucher de laisser son fils reprendre, un concessionnaire automobile de faire travailler son fils dans le garage? Non. Alors pourquoi on l'interdit aux politiques?
Oui, c'est ça, on veut toujours aller plus loin, et finalement, en fait, le politique est discrédité par lui-même.
Mais oui, mais on ne se pose pas la vraie question qui est le coût intime de la politique. J'essaye de montrer une vie de famille politique dans ce livre, où effectivement, bah, c'est pas si simple, ça coûte beaucoup, ça coûte pour la vie de famille, ça coûte pour les enfants, ça coûte pour le mari, ça coûte... Voilà.
Oui, il y a une notion de...
Il y a un coût extrêmement lourd. Mmh. Et je pense, enfin honnêtement, je pense que le coût est encore plus lourd pour les femmes. Parce qu'on est malheureusement dans la société, et encore, on essaye d'avancer un peu en France, mais dans la société à l'international, on est beaucoup à dire « Ah ben les femmes doivent s'occuper des enfants, ah ben les femmes doivent faire ceci, les femmes doivent faire cela. » Alors que c'est des choses qui doivent être séparées.
Oui.
Alors, certainement, il y a des choses que les femmes font mieux que les hommes. Y a pas de doute là-dessus.
Oui, c'est indubitable.
Mais ça peut être aussi mieux faire de la politique, ça peut être aussi mieux faire le service de renseignement, ça peut être...
Faire différemment.
Et puis moi j'ai la chance d'avoir une femme qui est parfaite et qui fait, qui fait tout très bien. Tout très bien. Y a peu de choses que je fasse aussi bien qu'elle.
Oui, oui.
Donc... Je dis ça comme ça, je ne me ferais peut-être pas taper en rentrant. Mais...
Oui, c'est très bien. Oui. Dans la notion de la politique, il y a la manipulation du réel et la fabrication du réel. Oui. Et l'acteur à côté, le média, en fait. Le média, c'est les chaînes d'information continue.
Oui, c'est pas que les chaînes d'information continue,
oui, mais
les réseaux sociaux aussi. On a une vraie difficulté à admettre que ce n'est pas parce qu'on a écouté une chaîne d'information continue en boucle sur un dossier qu'on connaît le dossier.
Oui.
Le dossier, on ne le connaît que si on se plonge dedans tout seul. En l'étudiant, en recoupant tout. C'est pas le travail d'un média. Le média va faire un documentaire, va faire des audiences, va faire des débats. Mais toujours sur une seule partie du problème.
Oui.
Il ne va pas le faire sur l'ensemble. Il ne va même pas, parfois, réellement recouper ses informations. Non. Là, il y a une scène un peu cocasse au moment de la revendication et où le journaliste ne va même pas essayer de recouper, de voir si c'est réel, et il va directement publier la revendication en passant un message au ministère de l'Intérieur en leur disant « vous devrez regarder mon émission, je suis en édition spéciale, ça va vous intéresser ».
Oui, ou même le consultant politique qui veut dire quelque chose et qui va orienter le débat... dire cette chose.
Mais tout à fait. Et politique ou autre, d'ailleurs. Oui. Judiciaire. Ou...
Oui,
voilà, oui. Tu fais écho au tout début quand
Il a besoin de se vendre aussi.
Mais bien sûr. Tous les gens que vous voyez, ou presque, qui sont des consultants, sont payés. Ils sont payés en fonction du nombre de fois où ils apparaissent sur les plateaux. Donc s'ils sont payés en fonction de ça, ils ont intérêt à être le plus vendeur possible.
Être des bons clients.
Et donc, à dire ce que... Et à rentrer sur des détails qui ne sont pas forcément pertinents, mais qui, eux, leur font plaisir et qui vont créer du buzz. Voilà. Et il ne faut pas croire que les consultants sont des journalistes. Ce n'est pas la même chose.
Non.
De la même façon, un journaliste... ne va pas toujours vous dire tous les éléments, parce que comme il doit respecter la ligne éditoriale de son média, eh ben il est un peu orienté. Et donc s'il est orienté, il vous dira que ce qui va dans le sens qui l'intéresse. Sauf que le vrai intérêt d'avoir toute l'information, c'est de tout peser. Et c'est aussi le rôle du politique. Le politique avait le temps de tout peser dans la décision politique, dans le vote de la loi. Aujourd'hui, tout se réagit sur le sentiment, l'immédiateté, sur la réaction à l'émotion.
L'émotion.
On vote une loi parce que il y a eu un truc terrible.
Oui.
Voilà. Et on ne réfléchit plus aux conséquences de la loi.
Oui.
On dit on doit juste réagir tout de suite. Bah oui, mais non, ça...
Oui, il n'y a plus de corpus législatif, il n'y a plus de corpus constitutionnel, on met tout et n'importe quoi dans la Constitution, en fonction des émotions, en fonction de la mode, enfin bon, ça c'est...
Bon, après, ça bon. C'est pas l'objet, puisque on parle d'un livre, mais...
La décision du Conseil constitutionnel du 73, mais bon...
Ça impacte sur la décision politique.
Ouais.
Ça impacte, donc, et c'est ce que j'ai... vous lui racontez sur l'orientation politique. Quand tu as un homme politique, un haut fonctionnaire ou un conseiller ministériel ou autre qui décide de dire « Attends, pour servir ma carrière politique, j'ai tout intérêt qu'on fasse telle modification de la loi sur l'élection. J'ai intérêt à ce qu'on fasse sauter telle restriction de cumul de, de je ne sais quoi, telle durée de mandat, etc. Il le fait pour lui.
Oui.
Aujourd'hui, parce qu'on ne pense plus qu'à nous.
Oui, c'est ça, oui. C'est des séries d'écuries.
Et ce n'est plus quel est l'intérêt à long terme pour le pays.
Oui.
Voilà. Et tout ça, c'est dicté par les réseaux sociaux, les médias, et la culture qu'on a pris là-dedans. Et ça, j'essaye de l'évoquer, parce que ça impacte la fabrique du réel, ça impacte comment on te raconte l'événement.
Oui.
Donc voilà, c'est une petite dérive.
D'accord. Donc la fabrique du réel, effectivement, c'est un oxymore, en fait. C'est...
Oui. C'est une possibilité.
Alors, nous avons la question d'un auditeur. Alors, cette émission en direct samedi 19 juillet au soir vaut bien sans doute une permanence au ministère de l'Intérieur. Dans les situations d'urgence, n'y a-t-il pas des procédures préétablies obligatoires ?
Oui, bien entendu, et tout est raconté, bien sûr. Enfin, c'est une évidence. La gestion de crise, on essaye de pallier à tout, on essaye d'avoir tout prévu. On n'a jamais tout prévu.
Non.
Ça n'existe pas. Ce qui est décidé et ce qui est préparé est toujours au cas où, dans certaines circonstances, mais les circonstances changent au jour le jour.
Oui.
Alors, c'est très intéressant cette question parce que oui, c'est préparé, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de raconter et de montrer, c'est cette mécanique, ce geste, comment telle ou telle personne va se retrouver à être appelée et à venir intervenir pour tel domaine, qui on fait revenir au ministère de l'Intérieur par exemple, qui est de permanence et va donc téléphoner, qui à la sécurité intérieure, enfin à la DGSI, va décider, on envoie qui, où, est-ce qu'on garde des forces parce qu'il y a d'autres risques,
oui,
qui pèsent, des menaces, comment on fait passer tel agent pour aller voir, comment on infiltre un agent, comment l'agent,
oui,
doit réagir en fonction de ce qui se passe,
et comment
abandonner
il doit
la mission ou, oui, pas, ou rester dans la mission au, mmh, risque de laisser quelque chose arriver derrière. Voilà, donc oui, effectivement, il y a des procédures qui sont établies, heureusement, mais tout n'est jamais prévu.
Oui, c'est ça, c'est... Typiquement, il peut y avoir des plans de prévention des risques, des plans de continuation d'activité, mais à la fin, il y a toujours petit grain de sable. Et le but, je pense notamment en termes militaires... Comme ils disent à la Légion étrangère avec l'anglais, là on parle d'anglais, c'est drill, drill, drill. C'est répéter, répéter, répéter pour avoir la base et ensuite, effectivement, au niveau du groupe tactique, effectivement, avoir la capacité à improviser.
On improvise. Et la réalité dans le livre est celle-là. Il y a une scène un peu, quand le livre avance,
oui,
où le personnage principal s'aperçoit que même les terroristes qui ont réussi à faire des opérations sur des heures et des heures et enchaîner les opérations, à un moment, ils n'ont plus de ressources.
Oui.
Et donc, ils doivent continuer, donc ils font appel à de la ressource locale. Et donc, ils commencent à improviser.
Oui.
Et là, on se dit, on est presque au bout.
Oui.
Et donc, il y a aussi, tu parlais de on répète, on répète, on répète, oui. Et quand tu t'en sers pas pendant des années, parce qu'un des personnages n'a,
oui,
pas utilisé ses capacités pendant des années, et les capacités reviennent pas toutes d'un coup. Elles reviennent et puis il n'a pas répété, alors il reprend,
peut-être
il est un peu hésitant sur certains trucs, il frappe trop fort, il prévoit de faire quelque chose et puis en fait c'est pas comme ça que ça se passe, il arrive à s'en sortir mais un peu peu en tâtonnant et en improvisant, parce que c'est une réalité. Tu peux avoir été un espion super entraîné pendant 10 ans. Si pendant 10 ans, tu fais plus rien.
Oui. Il y a une usure.
Il y a une usure, il y a le corps qui réagit plus de la même façon. Si tu ne fais plus toutes tes séances de musculation, d'entraînement cardiaque et autres, bah, tu ne réagis pas de la même façon. C'est un peu la même version dans la politique, où, parce que c'est des parallèles. Là, on parle de ce personnage-là, mais on pourrait parler de ces personnages qui sont au pouvoir, qui réagissent,
oui.
D'autres où tu as l'impression qu'ils ne réagissent pas.
Oui.
Et qui peut-être font différemment, œuvrent un peu dans l'ombre. Puis tu en as qui tirent les ficelles depuis le départ et tu vois bien qu'ils fonctionnent avec 3, 4, 5, 10 coups d'avance.
Oui, c'est ça, oui. C'est. Ouais, moi, ça me fait penser un peu à François Hollande.
Ça te fait penser à qui tu veux. Ça te fait penser à qui tu veux.
Mais ça me fait penser aussi à l'opposé, à des gens qui semblent être très entourés. Des hommes politiques qui semblent être très entourés, mais qui finalement, en fait, sont seuls.
On est seul. Au cœur du pouvoir, on est seul. Parce qu'au final, le vrai politique, comme je le disais tout à l'heure, le politique, c'est celui qui arbitre.
Ouais.
Et c'est celui qui va être responsable ouais. d'avoir arbitré comme ça. Et donc, on est seul.
Ouais.
On peut être très entouré, on peut avoir tous les avis du monde. Quand on prend la décision, on est seul avec soi-même.
Alors qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, en fait, finalement, c'est le livre de chevet des politiques, ça devrait être le rôle social de l'officier du maréchal Foch.
Non.
C'est le premier, c'est l'officier qui est en première ligne et il peut se présenter à une élection où il se fera mitrailler, mais comme dirait Sarkozy, de toute façon, la politique c'est fait de cicatrices.
Alors la politique c'est fait de cicatrices, oui ça c'est une vérité. Mais qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, il y a deux choses à voir dans la gestion du pouvoir. Un, il y a la politique qu'on a décidée et donc la vision à long terme. Ça, qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, peu importe, on est censé avoir une vision à long terme.
Oui.
Et puis, alors même si c'est pas toujours le cas... Et puis, il y a la gestion immédiate.
Il y a la pratique quotidienne.
Sans parler de personnel politique ou d'ancien président, moi j'ai eu un message de François Hollande qui me félicitait pour la crédibilité de l'histoire, de la nuit de crise. Et bah ça m'a touché parce que des nuits de crise, il en a connu pour le coup.
Oui.
C'est. Voilà, on peut aimer, ne pas aimer sa politique, c'est pas le problème.
Non.
On est obligé de reconnaître qu'il a eu à gérer des crises,
oui.
qu'il les a gérées comme il a pu,
oui.
Avec ce qu'il avait, et qu'il sait ce que c'est. Et ça, je pense que c'est important pour un président d'avoir une vision. De l'arbitrage et de comment on gère quand c'est le problème. Alors je dis pas qu'il faut je dis juste que le politique doit arbitrer, doit choisir. C'est mieux quand il a l'expérience et c'est totalement ce qu'on voit dans le livre.
Oui.
Et où, les 100 dernières pages, on ne voit rien arriver. C'est un château de cartes. Tout s'effondre, ou plutôt un jeu de dominos, et une pièce en entraîne une autre, jusqu'à la fin. Bon, voilà, donc je ne vais pas révéler, mais normalement, quand les gens terminent, s'ils trouvent mes coordonnées, ils m'envoient un message en direct, ou sinon ils l'envoient à la maison d'édition pour dire... Je l'ai pas vu arriver, chapeau. Et en général, la deuxième phrase, c'est « Quand est-ce que sort le tome 2 ?» Donc, je le redis, il sort le 29 octobre. Voilà.
Donc, nous sommes toujours avec Florimond Olive, Libre Journal des Artisans, à l'occasion du tome 1 d'une saga Tempus Fugit est sous-titré Au nom du Père. Ce qui nous permet en fait d'évoquer la politique, la pratique de la politique, l'artisanat politique en fait. Parce que on a vu la fabrique de l'opinion, on a effleuré effectivement la fabrique d'une vision. Et après, il y a la petite cuisine. Il y a la petite politique.
Et oui, mais c'est quelque chose que j'essaye effectivement de même si c'est pas le cœur du livre,
non.
Puisque le cœur c'est l'aventure,
oui.
mais c'est le théâtre, c'est la
scène.
C'est
le théâtre, c'est la scène.
Donc la scène, bah, il y a quand même beaucoup de choses qui sont politiques parce que c'est le cœur du pouvoir, c'est le réacteur nucléaire. Et on s'aperçoit que bah, les petits coups, les coups tordus, tu devrais pas aller soutenir machin parce que il va tomber et moi je t'aide si tu l'enfonces. Par contre, je t'enfonce si tu l'aides.
Ouais. Ou alors.
C'est une réalité, hein, ça existe. Alors, les fidélités en politique.
Ouais. Ou alors les rivalités entre collabs, un collab qui va sortir une idée un peu pourrie, qui va souffler à un autre collab pour qu'il souffle aux décideurs et qui va lui permettre en fait de se discréditer. Et
même
puis,
si dans ce sens-là, et c'est beaucoup plus rare que l'inverse.
Hein. Oui.
C'est beaucoup plus rare que l'inverse. Mais. Parfois, c'est le politique qui donne une idée pourrave aux collaborateurs. Ça arrive aussi.
Ça
arrive aussi.
C'est la fausse bonne idée.
Oui, c'est le politique qui va te dire « Ah, ben on va faire ça sur les réseaux sociaux. » « Ah non, tu fais pas ça sur les réseaux sociaux. » Non, c'est pas possible.
C'est ça.
Mais ça arrive, oui.
Ça arrive.
Je raconterai peut-être des anecdotes dans un prochain tome.
Non, mais il suffit de suivre quelques hommes politiques et puis de voir à quelle heure ils postent aussi.
Oui.
Sur Twitter, parce que Twitter, ça c'est pour les journalistes.
Oui, mais Twitter, en fait, a remplacé les communiqués de presse.
Oui, ah bah oui.
Donc maintenant, on tweet pour tout et rien. Et peut-être que je vais révéler un secret d'État, mais mesdames et messieurs, 95% des tweets mentionnés par les hommes politiques ne sont pas écrits par eux.
Bah non.
Parfois, ils ne sont même pas validés par eux.
Ah, validés, c'est plus problématique.
Oui, mais c'est aussi pour ça que parfois, on a du n'importe quoi qui tombe.
C'est ça.
Voilà, il y en a. Et puis, parfois, il y a des politiques qui disent ah, « Non, je laisse ça à personne. » Et qui ferait mieux de le faire, de le laisser à quelqu'un d'autre. Parce
oui.
que c'est
bon, aussi... on a des exemples.
Ah, mais moi, j'ai un souvenir mémorable d'un tweet extraordinaire où un type fait une réflexion sur Gabriel Jesus, donc le joueur de foot, et je crois que c'est Christine Boutin qui lui répond. Il dit en substance, Jesus, il sert à rien. Et donc elle lui dit, qu'est-ce que vous lui voulez? Il a sauvé le monde. Je peux. Il y a une histoire comme ça. Et en fait, il lui répond, je parlais du joueur de foot. Hein. Donc je crois qu'il y a eu une histoire comme ça. Tout ça juste pour dire. C'est un métier.
Oui.
C'est pas n'importe qui poste.
Non.
C'est ce qu'on appelle un community manager, bah, qui fait son boulot et...
Enfin, community manager, il s'occupe de la mécanique, le discours est validé par le politique, normalement, dans un monde idéal...
Pas toujours.
Susurré par un conseiller...
Non, mais ça dépend du sujet.
Oui.
En général, ce qui se passe, c'est il y a la gestion permanente.
Ouais.
Donc ça,
y a
c'est le community
quotidienne.
Manager. Après, le community manager, s'il fait bien son boulot, il va dire, attendez, là, il y a un sujet qui est en train de monter, là, il serait peut-être bien de dire quelque chose. Qu'est-ce que le politique en pense? Et il remonte, et là, il y a une décision, et ça redescend. Et parfois, le politique dit, ah, je veux dire quelque chose par rapport à tel sujet, et dans ce cas-là,
oui,
et un petit travail, quelques minutes, et puis hop, une publication.
Il doit dire quelque chose pour appeler une action, normalement.
Ou juste un message. Un message de soutien.
Ouais, mais en politique,
faut qu'il y ait une signification. Qui appellent leur community manager en disant « Ah bah, il y a eu telle personne qui est morte, tu fais un message ».
Non, mais il faut que ça soit porteur d'un sens.
Hommage.
Ouais.
Il y a ça, ça existe.
Non, mais par exemple, t'as un soda tué au combat. Je pense notamment dans la zone sahélienne.
Là, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend aussi du politique et du community manager, parce que tu as des politiques qui ont qui veulent absolument que dès qu'il y a un événement comme ça, on ait un message public.
Ouais.
Tu en as d'autres qui disent je veux qu'il y ait un message public, mais pas avant que j'ai fait un message personnel. Ah, derrière, ça. À la famille, parce qu'il y en a qui font ça.
Oui. Et c'est très louable.
Voilà. Donc, donc ça existe. Et puis, il y a de tout. Il y a de tout.
Ouais, c'est... Bah non, parce que moi, je pense au Taubirade.
On va de plus en plus loin par rapport au livre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, on s'égare. Revenons sur le livre. Je reviens sur tout ça. T'as mis quelque chose de toi dans ce livre.
Oui, du temps, de l'énergie.
Du temps, de l'énergie.
C'est une expérience. Partie de mon cerveau, parce que j'ai à la base c'était pour me vider l'esprit, donc pour libérer un peu de place. Et oui, enfin j'ai mis une mécanique. C'est une pièce de théâtre. Le décor est réel.
Oui.
Les personnages sont fictifs.
Plausible.
Le décor.
Le décor est réel. Oui.
Les événements sont plausibles.
Les événements sont plausibles.
Les personnages sont fictifs.
Voilà. Il y a pas de. Oui, les personnages sont des. On n'arrive pas à trouver. Moi, j'arrive pas à trouver de lien avec des hommes politiques en particulier.
Parce que c'est des mélanges.
C'est des mélanges.
C'est un syncrétisme. Parce que, comme je te disais, tu as la description physique qui, elle, est celle de l'acteur que j'ai imaginé jouer le rôle. Et puis tu as la pensée. Alors, certains côtés seront un peu plus machiavéliques. Certains côtés seront un peu plus humains, seront un peu plus terre-à-terre. D'autres seront juste factuels.
Mmh.
Et puis d'autres sont des électrons libres, un peu comme dans la vraie vie. Mais effectivement, je peux avoir pris des façons de réagir de plusieurs. Je les ai mis dans une tambouille et je les ai sortis.
Oui.
Mais c'est pas une projection. Tu peux pas ouvrir le livre en disant « Ah, celui-là, c'est telle personne, celui-là, c'est telle personne, celui-là, c'est telle personne. » C'est pas possible.
Non, parce qu'en fait, c'est une pelote. Comme on le disait au tout début, il y a un fait générateur qui est un attentat terroriste. Et après, il y a toute une série d'événements, de personnages dans lesquels on va tirer un morceau de fil d'une pelote.
Et chacun joue son rôle. Pour sa propre, obédience. Ouais. Puisque, forcément, il y en a qui sont du côté des mondelins, il y en a qui sont d'autres côtés, il y en a qui sont du côté des terroristes, d'autres qui ont des rôles assez flous.
Voilà. Oui, il y a des personnes un peu doubles. Il y en a beaucoup. Et à côté, en fait, en guise de respiration, pour sortir en fait de l'intrigue principale, qui est la recherche effectivement de la responsabilité du terroriste, il y a le personnage qui est présent, mais déclaré mort. Qui est pas mongolin.
Ah oui, tu parles par rapport à 2006. Donc
il y a des retours en arrière.
Ces retours en arrière permettent de connaître l'origine de la quête du personnage principal.
Oui.
Voilà, le personnage principal, il veut trouver qui a. Enfin, il participe à une recherche pour trouver qui a tué son père. Il croit pas à la version officielle. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant de venir, parce que la vérité est multiple, parce qu'elle est par fragments, de venir mettre ces rapports, qui sont tous en rapport avec Paul Mondelin, et de dire, bah voilà, Paul Mondelin s'est levé, voilà comment il s'est passé, c'est un rapport du KGB, voilà, il a eu un coup de téléphone, il a dit ça, hein. Là, bah, vous avez Paul Mondelin qui est monté dans un hélico, et machin, et puis il va, pour faire signer un traité de paix, à des monstres, à des terroristes barbares, il y va parce que avec la puissance du Front Monétaire International, il stoppe la guerre et il les aide à financer une nation souveraine avec tout leur clan, et puis il y a une explosion, et voilà. Et donc la version officielle, c'est une autre faction terroriste qui a attaqué et qui a tué Paul Mondelin, et lui il y croit pas, et donc il enquête.
C'est ça.
Et en fait, tous ces événements de 2006 sont liés aux événements de 2021. Donc effectivement, chacun joue son jeu à la fois dans le présent et en fonction de ce qu'il veut, parce qu'il y a ce personnage qui recherche pour cette raison-là, il y a d'autres et donc qui agit en fonction de ça. Il y a d'autres personnages qui veulent maintenir leur position. Il y en a d'autres qui envisagent d'être candidats à la présidentielle, et donc ils doivent jouer leur image, leur pouvoir, montrer qu'ils font différemment. Et puis il y en a d'autres qui regardent le foot, enfin qui regardent les articles sur le foot.
Oui, c'est ça.
Il y a
comment dire,
et je tiens à le dire, il y a une blague pourrie par livre, c'est volontaire,
c'est vrai.
Bon. Voilà, c'est les deux règles que je me suis mis, c'est enfin trois règles: le temps réel, une blague nulle, mais une blague qui fait rire quand même.
Ouais.
Normalement, t'as dû rigoler quand tu l'as lu.
Oui.
On a honte de dire qu'on a rigolé quand on a lu cette blague, et une musique. Voilà, qui est évoquée, c'est tout. Les personnages vivent leur vie.
D'accord. T'as quand même mis beaucoup de toi à l'intérieur de ceci.
Mais t'es obligé.
Ouais. Bah oui.
Déjà,
oui.
C'est mon premier.
Oui.
Voilà. Je mets de mon imaginaire. Je dois dire que pour le 2, j'ai mis beaucoup plus que ça, parce que pour être... Pour rentrer plus dans le psychologique, dans l'émotion, dans ce que les personnages peuvent... avoir dans la tête et comment ils peuvent vriller. Tu fais remonter des douleurs anciennes, des pertes, des tristesses. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai écrit très vite, grâce à l'idée de mon meilleur ami. En fait, grâce à l'idée, il m'a lancé un défi, j'ai dû effacer tout le livre et recommencer. Mais j'ai écrit très vite, grâce à ma femme, puisque ma femme s'occupait à fond des enfants les week-ends. Elle me laissait travailler jusqu'à 3-4 heures du matin sur le tome 2. Et ça a été beaucoup de café, ça a été émotionnellement dur. Parce que je passais aussi de quelque chose que j'avais mûri pendant des années avec juste de l'imaginaire, à quelque chose où j'avais besoin de faire ressentir aux gens. J'avais besoin de leur faire ressentir le contact froid du métal, un plastique qui grince, des vitres qui explosent quand une voiture a un accident, la destruction psychologique d'un personnage suite à un événement qui est foudroyant. Et tout ça, t'es obligé d'aller le chercher au fond de tes tripes pour l'écrire. Donc voilà, non, ça a été beaucoup plus dur pour le deuxième que pour le premier.
Deuxième tome, ça s'annonce peut-être avec un approfondissement des personnages.
À partir du moment où ça commence, à la minute où le tome 1 termine, je reprends les personnages encore vivants. Parce que oui, c'est un thriller, il y a des morts. Je reprends les personnages vivants et je leur fais vivre une nouvelle journée d'affilée avec au milieu de tout ça les cérémonies du 14 juillet.
Oui.
Puisque le livre commence le 14 juillet. Et surtout, ils vont devoir accepter les conséquences de leurs actes et des actes
qui sont
demain.
Ah oui.
Et ça peut être dur. Ça peut être dur, ouais, parce qu'il y a des choses quand même graves qui peuvent être faites. Il y a des personnages qui vivent des moments extrêmement difficiles, qui parfois prennent des décisions définitives. Mmh.
Tu penses que toutes décisions, enfin, des décisions sont définitives ?
Non, je dis que quand on écrit qu'un personnage est mort,
oui, bon, c'est il est mort.
Alors moi, c'est ma façon de travailler, mais je dis toujours, je ne mens pas au lecteur, mais je ne mens pas au personnage non plus. Je prends les personnages tels que je les ai conçus individuellement. Je les pose dans une situation et je les laisse évoluer. Mmh. Je sais grosso modo vers où ils vont aller, mais ce qui m'intéresse, c'est le contact entre deux personnages. Qu'est-ce qui va se passer quand les deux, ça va faire des étincelles, ça va bien, oui, se passer, où est-ce que ça les amène? Quelles sont les conséquences des actes qu'ils ont commis ou qu'ils ont subis, mmh, dans les heures qui précèdent? Et comment leur intellect, leur psychologie peut évoluer? C'est, voilà, après c'est la façon que j'ai de travailler, mais je trouve que c'est intéressant d'aller plonger là-dedans, parce que c'est pas des super-héros. Mes personnages, mmh, c'est des gens de tous les jours avec leurs blessures, avec... Ils sont... La façon dont ils arrivent à la première ligne du tome 1, ils ont un passé. Ils sont comme ça à ce moment-là parce qu'il s'est passé des choses, ouais, dans leur passé.
Le personnage principal,
lequel
celui qui est au nom du père, qui est au nom du père.
Ah oui.
Il se révèle quand même. On est passé d'un.
Non, tu peux rien dire parce que sinon ça va.
Tu vas divulgâcher,
comme on dit.
On va divulgâcher, oui, tout à fait. Mais il y a des transformations.
Oui, mais il y a une raison à ça. Et peut-être, ouais, que ça, tu vas le découvrir plus tard.
Tout à fait.
C'est aussi ça l'intérêt. Mmh. Si tu veux des parallèles sur d'autres séries télé, je te citais 24 heures chrono, je pourrais te citer Blacklist, ouais, que je t'ai déjà conseillé, oui, donc il faut que tu ailles voir. The West Wing,
Baron
Noir,
House
of Cards, parce que on vit dans un univers.
Ouais.
Et c'est cet univers-là qui est intéressant, et ce que les personnages font, pourquoi ils le font, quelles sont les conséquences sur ce qu'ils sont, mmh, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils vont devenir. Voilà. Enfin, je dois dire que, pour que tout le monde sache, parce que j'aime bien dire les choses, je t'ai fait lire en avant-première la dédicace et le prologue du tome 2. Pour te remercier aussi, parce que je sais que tu as beaucoup aimé le tome 1 et que t'attends le tome 2 avec impatience.
C'est ça, oui.
Donc,
oui, je vais arriver au voilà, courrier, là.
Oui, oui, c'est ça, oui. Parce que Benoît va le recevoir dans quelques jours, donc il est impatient. Mais voilà, c'est une évolution. C'est que de l'évolution des personnages et l'évolution des conséquences et... Voilà.
C'est un geste, c'est une saga en fait.
C'est une saga, c'est un univers, mais avec les règles qui sont les nôtres. C'est, ouais, peut-être aussi ça ce qui rend réaliste, parce que les articles que je peux céder, ou que je peux citer, ou les faits, ou les mécaniques, ou les règles que j'impose, c'est les règles qui existent.
D'accord. Bon, on va finir un petit peu sur tout ceci. Donc, on était sur le Libre Journal des Artisans. Nous avons eu le plaisir, l'honneur d'accueillir Florimond Olive à l'occasion de son ouvrage au nom Tempus Fugit, tome 1, au nom du père, sorti du tome 2 le 29 octobre. Donc,
continuation
au nom du fils, d'accord. Et qui est couronné, enfin tout au moins qui est sélectionné pour l'Académie nationale du renseignement. Donc félicitations. Je ne vous invite que à vous procurer chez Héraclès Éditions.
Tous les libraires, toutes les plateformes, partout.
Et puis, bonne lecture. Et puis, pour nous, au Libre Journal des Artisans, à la semaine prochaine. Merci, merci Florimond.
Merci Benoît, et puis je reviens pour le tome 2.
Voilà, on fera ça. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Artisans de Benoît Aguelon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie de 19h30 à 21h et réalisé par Mickaël. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 561 boulevard Murat, 75 016, Paris.